Alors, un très bon matin à vous tous, un très bon dimanche. Si vous êtes ici pour la première fois, alors nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues et que le Seigneur vraiment vous bénisse ce matin ensemble. Alors, peut-être vous allez constater que le titre du message n'est pas le même qu'apparaît dans l'écho. Il y a une raison pour cela, vous allez comprendre un peu plus tard. Et j'aimerais commencer ce matin avec une confession. J'aimerais vous dire ce matin que je suis la personne la plus humble dans cette église. Et que je suis fier de l'être. Et puisque je suis la personne la plus humble, je ne voudrais pas prendre trop de place dans cette église. Alors j'ai décidé de m'aimer seulement moi-même, mon confort, ma sécurité, mes projets. Et bien sûr, il ne faut pas oublier mon nom B. Et c'est pourquoi le samedi matin, chez nous, quand j'ai envie de justement me faire la couleur douce, parce qu'en même temps aussi, je devrais vous dire aussi, puisque j'aime moi-même et mon confort, et justement mes projets et mon nombril, j'aime moins des choses qui menacent ou dérangent justement mon confort et tout cela. Alors le samedi matin, quand je suis chez moi, et j'ai envie de la couleur douce, et d'habitude, ce que je fais, ben, je reste en vieux jogging, puis un vieux t-shirt, puis je ne suis pas obligé de me faire la barbe. Et je sais que je devrais justement ne pas faire cela pour faire plaisir à mon épouse. Je peux vous dire que c'est une bataille. Et je dois confesser que je suis perdant plus souvent que gagnant. Et aussi quand je dois aller au magasin, l'accompagner et passer quelques temps avec elle au magasin, et dans ma tête, je suis en train de penser à toutes les autres choses que je pourrais être en train de faire. Je peux vous dire que ce n'est pas facile, facile. Et pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, je m'aime moi-même, j'aime mon confort, j'aime ma sécurité, j'aime mes projets et j'aime mon nombril. Alors, j'ai fait ma confession. Comme on dit en anglais, « Confession is good for the soul ». La confession, ça fait du bien à l'âme. On sent tellement bien après, n'est-ce pas? Et puisque je suis l'un de vos pasteurs, et moi je me soucie de vos âmes, j'aimerais qu'on fasse ce matin une thérapie pour que tout le monde puisse se sentir bien. J'aimerais aussi qu'ensemble, nous disions « Je suis humble et je suis fier de l'être ». Alors, un, deux, trois, allez-y, « Je suis humble et je suis fier de l'être ». Alors, maintenant que nous sommes tous humbles et que nous sommes tous fiers de l'être, alors nous pouvons mieux comprendre pourquoi nous aimons notre confort, notre sécurité, nos projets et nos nombrils. Et nous pouvons aussi mieux comprendre pourquoi nous n'aimons pas les choses qui viennent nous déranger dans cela. Alors, nous pouvons mieux comprendre ce mari qui est fru avec sa femme parce qu'elle a brûlé ses tosses. Et nous pouvons mieux comprendre cette femme qui est fru avec son mari parce que lui est fru avec elle parce qu'elle a brûlé ses tosses. Et nous pouvons aussi mieux comprendre cette automobiliste qui s'est fait couper et qui est en colère parce qu'en son dessein l'a coupé. Et nous pouvons aussi mieux comprendre le sans-dessin qui est en colère parce que l'autre sans-dessin s'est mis en colère contre lui parce qu'il a coupé. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes comme cela? Mais comme je vous ai dit, c'est parce que nous aimons nous-mêmes. Nous sommes comme cela aussi parce que nous sommes humbles et nous sommes fiers de l'être. Est-ce que j'ose dire le vrai mot? le mot que je suis en train d'y penser, peut-être aussi vous êtes en train d'y penser, mais personne n'ose le dire. Nous sommes orgueilleux. Mais ce n'est pas un mot trop chic, vous savez. Alors ce matin, nous allons changer ça un peu et nous allons dire, ça va sonner mieux. J'aime en moi plus que toi. J'aime en moi plus que toi. Et vous savez, à cause de cela, nous pouvons nous demander, mais d'où vient cette idée? D'où vient ce terme? D'où vient justement le fait que j'aime en moi plus que toi? Mais j'aimerais vous suggérer, et c'est pas nouveau, ça fait longtemps que cela existe. Et vous allez vous rappeler de cet ange Lucifer. Et ce matin, on va utiliser un peu d'imagination sanctifiée. On peut imaginer, comme la parole de Dieu nous dit, il a été créé, il avait une beauté extraordinaire. Et un beau matin, il s'est levé, il a regardé dans le miroir, il s'est vu justement, « Hey, je suis beau, je suis fin. » Et dans son cœur, il a dit, « Écoute, Dieu, j'aime moi plus que toi. » Et ça n'a pas arrêté là, parce que plus loin, il est allé aussi voir nos premiers parents, Adam et Ève. Et vous savez, eux, Ève était là, la parole de Dieu nous dit que le serpent était très rusé. Et puis il est allé voir Ève et lui dit, écoute, Dieu ne t'aime pas vraiment. Si Dieu t'aimait, il ne t'aurait pas empêché justement de manger de ce fruit. Et il dit sans doute à Ève, écoute, il y a quelque chose que moi, c'est vraiment mon slogan à moi. J'aime mon moi plus que toi. Et j'imagine que Ève a regardé le beau fruit, elle a regardé en haut, elle a pensé à Dieu, elle a dit, Dieu, il me prive de quelque chose, je ne pense pas que Dieu il m'aime vraiment. Alors oui, je pense que le serpent, il y a une bonne idée. Et Ève, oui, c'est vrai, j'aime en moi plus que toi, Dieu. Et elle est allée voir Adam, et elle a dit, écoute, Adam, je viens de découvrir quelque chose, c'est extraordinaire. Et là, elle a raconté toute l'histoire, comment est-ce que le serpent lui a raconté ça, puis Adam aussi a dit, je pense que c'est vrai aussi. Puis lui, j'aime en moi plus que toi. Et vous savez, cela a été transmis de génération en génération. Ça n'a pas arrêté là. Et les enfants d'Adam et Ève et leurs enfants et leurs enfants et les enfants jusqu'à aujourd'hui. Et nous vivons aujourd'hui dans une société où est-ce que le slogan c'est « J'aime moi plus que toi ». Et vu que nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu, nous sommes des êtres relationnels, que Dieu a créé pour que nous puissions avoir une relation d'amour avec notre Créateur et avec nos semblables, et d'aimer Dieu avant toute chose, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Quand je mets en pratique, j'aime en moi plus que toi, ça crée des tensions. Ça crée des tensions dans les couples. Ça crée des tensions dans les familles. Ça crée des tensions au travail avec le patron, ça crée des tensions, peut-être à l'école, ça crée des tensions, même dans les églises, entre frères et sœurs. Et surtout, ça crée des tensions dans la relation avec notre Dieu. Et qu'est-ce qui arrive quand il y a de la tension? Mais ça, c'est une des raisons pour laquelle les couples, plusieurs couples sont en difficulté. Les statistiques nous disent qu'il y a un tiers des couples qui terminent en divorce. Ce n'est pas seulement dans le monde, c'est aussi parmi les croyants. Parce que tout le monde est en train de scander « j'aime en moi plus que toi ». Ça crée aussi des relations difficiles dans les familles. Peut-être c'est une des raisons pour laquelle les familles d'accueil ne manquent pas de clients. Ça crée aussi des relations difficiles avec notre Dieu. Et c'est une des raisons pour laquelle nous sommes souvent si désobéissants. Et bien sûr, ça crée des problèmes aussi dans la communauté et dans le monde entier. Et nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est un monde de violence. Vous êtes au courant, comme moi, comment est-ce que le terrorisme maintenant est devenu un fléau mondial. Et tout parce que tout le monde est en train de dire « j'aime moi plus que toi ». Alors comment est-ce que nous allons nous en sortir de cela? Est-ce que nous pouvons dire, je vais essayer d'être moins orgueilleux? Vous savez, comme on dit souvent, si la tendance se maintient, ce sera toujours, j'aime mon moi plus que toi. C'est dans notre nature humaine. Alors comment est-ce que nous allons nous en sortir de cette situation qui créait tant de difficultés dans nos relations interpersonnelles, qui créait tant de difficultés dans notre monde, dans nos familles, dans l'Église, dans la communauté, dans le monde entier? Où est-ce que nous allons voir et où est-ce que nous pouvons aller justement pour avoir des solutions à cette problématique? Vous savez, la parole de Dieu est une lumière pour nous, qui nous révèle qu'est-ce que Dieu pense de cela, lui. Quelle solution est-ce que Dieu nous donne, justement, pour que nous puissions s'en sortir, justement, de cela? Alors, pour cela, je vais vous inviter, si vous avez vos Bibles avec vous, tournez dans la lettre de Paul aux Corinthiens, 2e Corinthiens, chapitre 12. Et le texte pour ce matin, c'est le verset 1 à 10. 2e Corinthiens, chapitre 12, verset 1 à 10. Et je vais vous donner un peu le contexte. Verset 1 à 6, nous avons l'apôtre Paul qui parle justement de cet homme de Dieu extraordinaire qui a eu des révélations extraordinaires de la part de Dieu. Il parle comment est-ce qu'il a été ravi au troisième ciel et a entendu des choses extraordinaires. Il dit que ce n'est même pas permis à un homme justement de répéter. Et Paul est dans une situation semblable. À cause de toutes ces révélations, il pouvait se voir justement avoir la tête enflée. Il pouvait se voir comme un privilégié de Dieu. Il pouvait se voir comme un chouchou de Dieu. Il pouvait justement être focalisé sur lui-même, enflé d'orgueil. Et c'est là, au verset 7 maintenant, il va dire ceci. C'est à cause de cela qu'il m'a été mis une écharpe de dans la chair. L'excellence de ces révélations, de toutes ces choses qu'il avait vues, qu'il avait reçues, et justement le fait qu'il était exposé à devenir orgueilleux, il a été mis une écharpe dans la chair. Les commentateurs ne sont pas d'accord avec la signification de ce mot. Dans le texte original, le mot écharpe, ce n'est pas juste une petite chose qui rentre justement sous notre droit. Tu sais, des fois, on est en train de jardiner ou faire quoi que ce soit, ou bien on est en train de travailler le bois, puis oup, quelque chose rentre, puis ça fait mal. Dans l'original, le mot, c'est un morceau de bois pointu. C'est un piquet. C'est un pieu. Et Paul, il est en train de dire cela, qu'il y a eu cette écharpe dans la chair. Il y a des commentateurs qui pensent que c'était une infirmité physique, probablement au niveau de ses yeux. Et si vous regardez dans le texte aux Galates, parce que Paul il parle justement aux Galates, il dit « même vous seriez arraché les yeux pour me les donner ». Alors il y a quelques commentateurs qui pensent que Paul il avait des problématiques avec ses yeux, et c'est là où est-ce qu'il fait mention. D'autres commentateurs, y inclut John MacArthur, pensent que c'est autre chose que cela. Ils pensent que c'est une personne. Et le fait que Paul il appelle cette écharpe de un messager de Satan. Alors, pour Jean MacArthur et d'autres, ils pensent que c'était un homme dans l'assemblée à Corinthe, probablement possédé d'un démon qui rendait la vie difficile à l'apôtre Paul. Très difficile. Et là, dans ce contexte ici, nous avons Paul qui est devant cette situation. Et la première chose que nous allons voir, c'est la raison. Le texte dit, pour que ne soit pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Et vous savez, quand on voit la réaction de Paul à propos de cette écharpe, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il ne pouvait rien faire. Le fait qu'il fallait qu'il aille voir Dieu, et le fait qu'il aille, fallait qu'il aille demander à Dieu de lui enlever, nous montre que Paul il n'est pas en contrôle de la situation. Il n'est pas en contrôle. Et si vous voulez justement donner une claque à l'orgueil de quelqu'un, mais la seule chose que vous avez à faire, c'est de faire sentir qu'il n'est pas en contrôle. Et ça, c'est une bonne façon ici, justement, à Dieu, pour amener cet homme qui pouvait devenir orgueilleux, de le ramener dans l'humilité. Alors, ça c'est une raison. Et Paul continue la requête. Il a dit ici, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et bien, il faut admirer Paul ici. Paul n'est pas devenu amer. Il n'est pas devenu frustré. Il n'est pas, s'est pas mis en colère. Il a eu justement attitude spirituelle. Il est allé vers Dieu. Il a prié. Pas une fois. Pas 2 fois, mais même 3 fois. Juste pour nous donner justement ce sentiment que cette écharpe dans la chair est extrêmement pénible. C'est quelque chose qui rendait la vie de Paul tellement difficile qu'il est allé vers le Seigneur, puis il a martelé cette requête. Seigneur, enlève-moi de cela. Seigneur, enlève-moi ça. Seigneur, j'en pis plus, enlève-moi cela. 3 fois, il a demandé au Seigneur de l'enlever. Et comme il va nous dire ici, nous avons la réponse de Dieu. Il m'a dit, voilà la réponse de Dieu, ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quelle sagesse de la part de notre Dieu. Vous savez, il y avait 3 options ici à propos de sa requête. 3 options. Dans un premier temps, Dieu aurait pu l'enlever le pieu, l'écharpe, aucun problème, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Il aurait pu l'enlever. Mais s'il avait fait cela, Paul, il est toujours là, avec sa problématique d'orgueil, centré sur lui-même. J'aime en moi plus que 3. Alors Dieu, dans sa sagesse, il l'enlève pas. Dieu aussi aurait pu rien faire et laisser la situation telle qu'elle. Mais là aussi, Paul, parce qu'on voit que la situation est tellement pénible, tellement difficile, ça lui cause tellement de douleur que Paul, en étant humain, peut-être à la longue, comme on dit, avec l'usure, ils m'ont eu à l'usure, peut-être cet écharpe l'aurait eu à l'usure, et il serait devenu peut-être amer, aigri, peut-être demander à Dieu, mais pourquoi je veux faire ton travail, je veux te servir, et pourquoi tu permets cela? Et ça aurait pu, un moment donné, à la longue, même si c'est un homme qui a eu beaucoup, beaucoup de dons et a fait beaucoup de choses de Dieu, il était un homme pareil, et il aurait pu, un moment donné, développer peut-être l'amertume, la frustration dans sa vie. Mais ce que j'aime avec le 3e réponse que Dieu va donner à Paul, il va dire à Paul, « Ma grâce te suffit. » Alors, Dieu n'enlève pas le pieu, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute sa grâce. Et qu'est-ce que sa grâce fait? Qu'est-ce que sa grâce fait? Comment est-ce que la grâce de Dieu est capable, justement, dans ce contexte tellement difficile, de faire toute la différence? Mais la raison, c'est pourquoi, dans un premier temps, la grâce de Dieu va rendre ce qui était intolérable, maintenant, ça devient tolérable. Parce que Dieu va lui donner cette force surnaturelle, cette capacité spirituelle et de supporter l'insupportable. Ça, c'est ce que la grâce de Dieu fait. Deuxièmement, le fait que Paul est toujours en contact avec cette situation difficile, il va à la longue développer certaines vertus chrétiennes, entre autres la patience. Ça, c'est un des beaux fruits de l'esprit. Imaginez-vous, jour après jour, semaine après semaine, vous êtes dans une situation difficile et Dieu vous donne à chaque jour sa grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Mais à un moment donné, là, vous allez développer, au lieu d'avoir des choses, l'amertume, la rancune, quoi que ce soit, mais vous allez commencer à développer les grâces et les vertus de Dieu, la douceur, la patience, la paix à propos de la situation. Et la chose la plus importante aussi, Dieu va utiliser cette situation où est-ce que son serviteur est dans une situation extrêmement pénible et difficile, mais dans un état aussi de faiblesse extrême. Dieu va dire à Paul, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tu es un candidat exceptionnel, Paul. Tu es un candidat de choix pour que je puisse faire éclater ma puissance dans ta vie et faire une chose extraordinaire dans ta vie. Quelqu'un a bien dit, on ne peut pas être, on peut être trop grand et trop fort pour que Dieu puisse nous utiliser. Mais on ne peut pas être trop faible pour que Dieu puisse nous utiliser. Et dans cette condition d'extrême faiblesse, l'apôtre Paul est un candidat pour justement qu'on puisse voir la puissance de Dieu s'accomplir dans sa vie. Et Dieu est capable de faire des choses extraordinaires avec quelqu'un qui vraiment ressent sa faiblesse et compte justement sur la grâce suffisante de Dieu, la grâce que Dieu va donner sans limite. La grâce qui est toujours là, la grâce qui a, qui a cette capacité devant n'importe quelle situation de le faire passer à travers. Et maintenant, la réaction de Paul, il va dire ceci, « Je me glorifiais donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Est-ce que Paul est un masochiste? Était en train de nous dire, mais écoute, ah, wow, c'est le fun, ce t-shirt, ce pieu, amène-en. Mais non, je ne pense pas que ce que le texte veut dire. Paul est en train de voir sa situation d'un tout autre œil. Avant, il voyait quelque chose qui était comme un irritant, quelque chose qui dérangeait, quelque chose qui allait le chercher justement dans sa faiblesse. Peut-être qui l'empêchait justement de réaliser, qui dérangeait son confort, qui dérangeait ses projets, qui dérangeait justement son nombril. Et maintenant, il le voit d'un tout autre œil. Il voit cette chose que Dieu permet dans sa vie, cette personne, qu'importe si c'est un ou l'autre, mais comme une manière justement de voir que Dieu peut faire des œuvres extraordinaires à cause de cela. Et pour cela, il va justement rendre grâce au Seigneur pour la situation. Et je pense qu'il aussi, il est comme un peu comme hâte de voir ce que le Seigneur va faire à travers justement cette situation. Alors, Paul, il voit que le pur est nécessaire. Et je résume cela. Si vous oubliez tout ce que je vous ai dit ce matin, j'aimerais que vous reteniez une seule chose. Si tu aimes ton Dieu, mais ne hais pas le pieux. Le pieux dans votre vie, dans ma vie, a sa raison d'être. Et ça, c'est ce que Dieu permet parce qu'il veut justement nous fortifier avec sa grâce. Et je ne veux pas que vous me mépreniez ce matin. Je ne parle pas des personnes peut-être qui sont dans une situation abusive ou quoi que ce soit, où est-ce que la vie de la personne est en danger. Je parle des choses de la vie qui nous dérange. Peut-être c'est un individu comme ici pour Paul, dont sa faiblesse vient nous chercher dans notre faiblesse. Et on a justement cette capacité de développer des mauvaises réactions, mais Dieu aussi veut faire à travers cela des grandes choses et sortir de nous justement des beaux fruits de l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout cela? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout cela que nous avons vu ce matin? Parce que nous sommes humbles et nous sommes fiers de l'être. Nous sommes sûrs, et moi le premier, qui aime moi plus que trois. Alors, je vais vous demander de faire une chose ce matin. C'est une application pratique de ce texte. Je vais vous demander de penser, j'ai pris l'application et l'interprétation de l'écharpe comme pour Paul, l'interprétation de John MacArthur qui dit, probablement c'était une personne dans l'assemblée là, qui rendait la vie de Paul extrêmement difficile. Alors, je ne sais pas pour ce matin si vous avez des pieux dans vos vies. Si tel est le cas, je veux que tu penses à cette personne ou ces personnes dont leur faiblesse vient te chercher dans ta faiblesse. Ou est-ce que tu sais que tu as justement une lutte avec les émotions qui surgissent en toi quand tu es dans cette situation? Et je ne vous demande pas de dire le nom de la personne à haute voix. Ça, c'est entre toi et le Seigneur. Et tu peux en avoir une, tu peux en avoir deux, tu peux en avoir trois, je n'en sais pas. Et je vais vous demander de faire une chose. Je vais te demander de faire une chose. À chaque fois que tu penses à cette personne ou à chaque fois que tu vois cette personne qui pour toi est un pieu, je veux que tu pries pour cette personne. Je veux que tu demandes au Seigneur de donner cette personne sa grâce toute suffisante, sa grâce qui est capable justement de toucher cette personne et pour justement l'aider à surmonter sa faiblesse. Et dans un premier, deuxième temps aussi, je vais te demander de prier pour toi-même. Dans un premier temps, de remercier le Seigneur pour ce qu'il veut faire dans ta vie, pour les belles choses qu'il veut développer dans ta vie à travers cette situation qui pour toi est irritante, dérangeante, qui vient déranger ton confort, qui vient déranger tes projets, qui vient déranger ton nombril. Et remercier le Seigneur pour ce qu'il veut faire avec cette situation dans ta vie. Et aussi, remercier, mais aussi réclamer. Réclamer, parce que le secret est là, réclamer la grâce de Dieu, justement pour ce que le Seigneur veut faire dans ta vie à cause de cette situation. Réclamer cette grâce, supporter ce qui est en train de passer dans ta vie et justement regarder vers le Seigneur et attendre ce qu'il va faire à travers cela. Et vous savez, c'est une prière qui me fait penser, et je veux qu'un moment qu'on pense à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce que Paul a fait, il est juste en train de modeler le Seigneur Jésus-Christ. Et jamais qu'on pense ce matin au Seigneur qui était au jardin de Gethsémani. Et là, il est devant la croix. Il est devant une situation qui est extrêmement pénible. Même plus pénible que la situation de l'apôtre Paul. Il sait que dans quelques ans, il va sortir de ce jardin, il va être justement arrêté par les hommes, il va subir justement la flagellation, la torture, il va être trouvé sur une croix, il va subir une situation extrêmement difficile. Et c'est quoi son recours? Il va se mettre à genoux, le visage contre terre, face contre terre, il va prier. Et Paul, sans doute, a modelé sa prière après le Seigneur, parce que le Seigneur a prié trois fois. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non ce que je veux, mais ce que tu veux. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'il y a un ange du ciel qui est descendu pour le fortifier. Dans son humanité, Dieu n'a pas enlevé justement la croix, mais il a donné cette force, cette grâce. Et animé par la grâce de Dieu, fortifié par la grâce de Dieu, il est sorti du jardin. Il est allé à la croix du calvaire et accomplir une œuvre extraordinaire. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et la puissance de Dieu a éclaté sur la croix. Et ça portait fruit, et ça porte fruit même encore aujourd'hui. Pourriez-vous imaginer qu'est-ce que ça changerait dans ta vie si tu cesserais de haïr justement le pieu parce que tu aimes ton Dieu? Qu'est-ce que ça changerait dans nos relations, dans nos couples peut-être, avec nos enfants, dans l'église peut-être, dans la communauté? Pourriez-vous imaginer qu'est-ce qui se passerait si chacun de nous ce matin prendrait justement la ferme résolution de commencer à prier? Et de ne pas haïr le pieu, mais de prier justement pour que le Seigneur donne cette grâce suffisante. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses changeraient. Tout d'abord dans nos propres vies et aussi autour de nous. Parce que la grâce de Dieu est suffisante pour toute situation. Et nous puissions partir et être justement des hommes et des femmes de Dieu que Dieu voulait former à l'image de Jésus-Christ et utiliser pour faire des choses extraordinaires dans notre société, dans nos églises, dans nos familles et partout où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous allons. Et ce matin, si vous êtes ici et vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais terminer en parlant justement de notre type de grâce. On a parlé de la grâce suffisante, ma grâce suffit. Mais j'aimerais aussi parler avant de vous laisser de la grâce salvatrice. La grâce salvatrice. La grâce salvatrice qui est suffisante pour l'âme et qui aussi est obtenue de la même manière. Nous avons fait une belle confession ce matin. Tous nous avons dit « Je suis humble et je suis fier de l'être » ou bien, si vous préférez, « J'aime moi plus que toi ». Mais pour obtenir la grâce salvatrice, il faut, oui, commencer par là et dire à Dieu, oui, jusqu'à présent, j'aime moi, j'ai aimé moi, plus que toi, Dieu. Et tourner vers la croix et de voir un Dieu qui, malgré le fait que je me promène et j'ai été désobéissant, et je dis toujours, j'aime moi, plus que toi, Dieu, un Dieu qui a la main tendue. Pour dire, malgré cela, moi, je t'aime trop. Et comment est-ce qu'il nous a démontré qu'il nous aime? Parce que son fils Jésus-Christ est allé mourir sur la croix. Dans cette condition, quand nous étions en train de dire à Dieu, j'aime moi plus que toi, Jésus-Christ est allé mourir à la croix. Et sur la croix, il a porté cette punition que nous devrions justement subir à cause de nos péchés. La Bible appelle ça le péché. Et Jésus-Christ a payé la dette de nos péchés. Et si ce matin, tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, et tu veux justement avoir cette grâce salvatrice, la Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors comment est-ce qu'on fait cela? Mais tout simplement, de dire à Dieu, jusqu'à présent, oui, Dieu, j'aimais moi plus que toi, mais dès aujourd'hui, dès ce moment même, je confesse que moi, j'étais désobéissant. Moi, j'ai péché contre toi. Moi, j'ai été la cause pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix. Et ce matin, je veux me détourner justement de cette mauvaise attitude, me détourner de mes péchés. Je veux justement croire dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix, qu'il a payé pour mes péchés. Et désormais, maintenant, je veux être capable de dire à Dieu, je t'aime, Dieu. Je t'aime, Dieu, plus que moi-même. Et d'être capable aussi d'aimer mon prochain comme moi-même. Et si tu fais cela, la Bible nous donne la garantie. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il est à la droite de Dieu, tu seras sauvé. Ma prière qu'il en soit ainsi pour toute sa gloire. Paul, il y a eu une écharpe dans la chair, c'était la souffrance pour un peu de temps. Les personnes qui rejettent justement la grâce de Dieu, la grâce salvatrice de Dieu, vont aussi avoir la souffrance. Mais ça va durer pour l'éternité. Ce serait dommage d'avoir, après avoir entendu l'évangile, de quitter ce lieu et aller justement et manquer justement la grâce à votre triste Dieu. Ma prière, c'est que si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, que tu peux l'accepter dans ton cœur, quand ton sauveur personnel, et connaître la grâce salvatrice, et plus tard, connaître aussi sa grâce suffisante. Parce que le but de Dieu, quand il nous sauve, c'est quoi? C'est de faire de chacun de nous des disciples, des hommes et des femmes de Dieu qui ressemblent à son Fils Jésus-Christ, et des hommes et des femmes de Dieu qui sont soutenus par sa grâce, eux, pour faire des œuvres extraordinaires qu'il a préparées d'avance afin que chacun de nous, nous puissions les pratiquer. Et notre société est mûre pour de telles personnes. Nous avons tellement besoin, et les gens autour de nous ont tellement besoin de voir des gens qui ont la grâce de Dieu dans leur vie. Tellement que la société crie, « J'aime moi plus que toi. » Mais nous pouvons, dans notre sphère d'action, renverser la vapeur et d'être de ceux qui se promènent en disant, j'aime mon Dieu, j'aime aussi mon voisin comme moi-même, et répandre l'amour de Dieu autour de nous. On va prier. Seigneur, nous venons vers toi. Merci d'être ce Dieu qui est grand, qui est miséricordieux, qui nous aime d'un amour éternel. Merci d'avoir livré ton Fils Jésus-Christ à la croix pour nos péchés. Et ce matin, nous tournons vers toi, Seigneur, nous qui sommes sauvés, pour te demander, oui, nous réclamer cette grâce toute suffisante pour devenir les personnes que tu veux que nous soyons. Seigneur, aide-nous d'être diligents, Seigneur, d'être de ceux qui prient les uns pour les autres, d'être de ceux qui prient pour ceux dont les faiblesses nous dérangent dans notre faiblesse. Et Seigneur, de se tourner vers toi pour la grâce toute suffisante pour supporter les situations que tu permettes dans nos vies pour que nous puissions te ressembler, Seigneur Jésus. Et s'il y a quelques-uns ici ce matin qui ne te connaissent pas, Seigneur, ma prière pour ces personnes, c'est que tu puisses te révéler à elles, Seigneur, que ta grâce salvatrice puisse les atteindre et qu'ils puissent te connaître, justement, oui, comme le sauveur du monde, qui est venu non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Seigneur, mets ta bonne main sur cette église. Mets ta bonne main sur tes enfants. Mets ta bonne main, Seigneur, sur nous tous, dans nos familles, dans nos couples. Nous avons tellement besoin, Seigneur, de cette grâce. Et que tu puisses aussi nous bénir ensemble. Demande cela au nom de Jésus. Amen.